Bonjour à toutes, bonjour à tous avec la partie reportage Lydia Gabon. Bonjour,
bonjour
Lydia.
Madeleine.
Les rêves occupent le plus clair de notre sommeil, mais on ignore toujours comment ils fonctionnent. Et depuis l'aube des temps, les humains ont toujours été intrigués par ces rêves, rêves prémonitoires, messages divins. Plus tard, Freud tente de leur trouver un sens, Jung. Ensuite, à quoi ça sert de rêver? Que disent-ils? Peut-on agir sur eux? Que disent-ils de nous en particulier? Ces questions, nous allons les poser à notre invité ce matin, le docteur Ferdinand Villemier. Médecin psychiatre, longtemps travaillant au CHUV, Ferdinand Villemier, enseignant de psychosomatique à la faculté de Lausanne, et puis aujourd'hui, travaillant beaucoup sur les rêves, psychothérapeute. J'ai tout dit dans les titres.
À peu près.
À peu près. Qu'est-ce que j'ai oublié de grave,
Ferdinand? Rien du tout, vous savez, c'est pas important les titres.
C'est pas important les titres. Je suis contente de vous l'entendre dire, j'ai quelquefois des invités qui ne sont pas aussi tranquilles avec leur étiquetage. Nous sommes là pour parler d'un livre qui est paru au chemin de l'harmonie aux éditions du Dervy. Ça s'appelle « Dis-moi comment tu rêves, je te dirai qui tu es ». Alors nous allons explorer ces rêves, essayer de comprendre à quoi ils servent. Et puis l'objectif final, ce sera probablement de dire à quel point nous devons leur consacrer du temps parce que les interpréter, les décoder pourrait nous aider à vivre. Mais une première question avant toute chose, Ferdinand Villemier, depuis quand vous intéressez-vous à l'interprétation des rêves?
Je pense que c'est venu un petit peu progressivement, puisque dans notre famille, à plusieurs reprises, j'entends encore mon père dire « tu sais pas ce que j'ai rêvé cette nuit ». Donc, à la fois, ça leur était incompréhensible. Ma mère était plus discrète, elle rapportait plus rarement des rêves. J'avais l'impression qu'elle comprenait mieux que mon père était un peu désarçonné par ce dont il rêvait. Il était plus rationaliste que ma mère plus intuitive, voire un peu mystique. Et puis moi j'étais là au milieu, j'écoutais, et ça m'intriguait aussi. Et plus tard, bien sûr, comme j'ai fini par devenir un psychiatre, psychothérapeute, eh bien, j'ai entendu les rêves de mes clients, bien entendu que j'ai fait aussi des rêves, certains rêves de mon enfance m'ont aussi intrigué, mais j'avais pas de réponse, mais ça continuait de m'intéresser.
C'était quel type de rêve? C'est ceux que vous racontez au début du livre, ou vous semblez dire...
Ah non, celui que je raconte au début du livre, c'est un rêve qui survient en fin d'analyse. Donc à ce moment-là, j'ai 28 ans, quelque chose comme ça, faudrait que je...
Les rêves
28 ans, plus ou moins 2 ans, je me rappelle plus. Non, 28 ans, ouais, c'est juste.
Les rêves du petit garçon qui vous intriguent, alors c'est quoi? Vous vous en souvenez clairement, probablement, aujourd'hui.
J'avais des rêves, surtout répétitifs, à l'endormissement, où je tombais dans des trous, mais aussi je volais. Alors pourquoi, comment, voyez? Et puis une fois, j'ai fait un rêve qui se passait à une autre époque. J'avais des habits qui montraient que ça se passait pendant la Révolution française. Et j'ai passé un mauvais quart d'heure, là. Et ça m'a aussi beaucoup intrigué.
Vous étiez un révolutionnaire ou un royaliste?
Écoutez, c'est difficile de savoir ce qui se passe dans vos incarnations précédentes, si vous y croyez. Mais en tout cas, ce rêve était très précis. Et les habits, après, j'entends, je l'ai fait, je pense que je devais avoir 8 ans. Mais quand j'ai vu sur des livres quels habits portaient les gens à cette époque, et en particulier les aristos, hein, les aristoloches à la lanterne, eh bien, ça m'a intrigué encore davantage.
Au-delà du mystère du rêve, vous avez dit... vie avant, dans les quelques mots que nous nous sommes échangés là. Donc il y a aussi cette croyance-là chez vous.
Eh bien écoutez, une croyance, c'est une croyance quand il ne vous est pas arrivé un certain nombre de choses. Quand vous avez fait, c'est comme pour tous les phénomènes parapsychologiques. C'est un dialogue de sourds entre les esprits rationalistes qui fonctionnent surtout avec leur cerveau gauche et puis qui sont bien terre à terre, à l'aise dans les fonctions administratives, manuelles, intellectuelles jusqu'à un certain point, donc la science pure et dure.
Et qui vous rétorquerait, par exemple, Ferdinand Villomier, là serait en costume, c'est parce que peut-être que dans votre bibliothèque,
mais
il y avait des livres.
N'importe quoi, c'est pour ça que c'est un dialogue court et ça ne sert à rien d'essayer de convaincre des gens qui n'ont pas vécu un certain nombre d'expériences. Personnellement, dans ma vie, il s'est passé un certain nombre d'événements qui ont fait que j'ai dû ouvrir mon champ de conscience. J'ai pas pu faire autrement, alors que j'étais quand même passablement influencé par le côté rationnel, concret.
La médecine, hein, médecine, psychiatrie.
Oui, alors médecine, oui. C'est une philosophie complètement matérialiste dont j'ai découvert les limites tardivement.
Donc ce livre aussi, on le redit, l'histoire de l'interprétation des rêves Freud, effectivement, quand même assez capitale avec cette interprétation de l'inconscient et de la sexualité. Jung plus tard, juste, on reviendra peut-être à une autre occasion sur ces différents niveaux d'interprétation des rêves, mais précisez tout de suite ce que vous allez dire aux auditeurs, c'est-à-dire vous, cette démarche à travers ce livre-ci, qu'est-ce qu'elle a d'original, Ferdinand Villomier ?
Mais d'abord, elle est synthétique. Je suis pas un adepte ni de Freud, ni de Médard Boss, ni de quiconque. J'ai fait mes propres observations.
Après une psychanalyse freudienne, hein.
Je n'y rien du tout, mais je veux dire que pour prendre l'exemple le plus connu, qui est celui de l'interprétation freudienne des rêves. Eh bien, je ne peux pas dire autre chose que ça n'est qu'une petite partie du spectre des rêves et que la théorie freudienne ne s'adresse qu'à une petite partie des rêves.
C'est-à-dire l'inconscient, la sexualité.
Non, tout ça, ça existe, l'inconscient, la sexualité. Mais les rêves freudiens qui sont en rapport avec les peurs et les désirs et avec la libido et la censure... D'abord, la censure, elle a beaucoup évolué entre la période victorienne de Freud, dans son milieu à Vienne, dans un quartier de moyenne bourgeoisie, etc., par rapport à maintenant. Donc les gens sont beaucoup plus libres. Je m'en suis aperçu avec ce livre. J'ai dû interpréter des rêves de personnes qui faisaient partie d'un site internet de santé. Alors des journalistes m'ont contacté pour ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rêves explicitement sexuels, avec des demandes d'explication pour savoir ce que ça voulait dire, ou une épouse qui s'inquiétait des rêves de son mari, n'est-ce pas? Bref. Donc, c'est vrai que les choses, d'une part, ont beaucoup évolué. Freud a, je crois, limité, consciemment ou non, ça j'en sais rien, c'est son problème, c'est pas le mien, mais disons que la manière d'interpréter les rêves, parce que ça satisfaisait sa théorie générale. Donc il a dit des choses, alors qu'il connaissait très bien toute la littérature à l'époque, depuis l'Antiquité, où... dans l'Antiquité, on s'inquiétait surtout de ce que les rêves pouvaient dire dans votre avenir. Or, Freud dit les rêves sont l'expression du passé, de ce qui a été censuré, réprimé, inhibé dans le passé. Donc déjà, il s'enlève toute une énorme partie de possibilités de signification des rêves qui ont trait à notre présent et notre avenir. Voilà, pour donner un exemple. Donc personnellement, j'ai essayé de synthétiser... de rapporter un peu tout ce que ces théories depuis l'Antiquité, parce qu'il y a les théories religieuses. Et puis...
C'est quoi les théories religieuses, par exemple?
Mais chaque religion a émis des tentatives d'explication du rêve. Mmh. Et on retrouve ça, par exemple, la personne qui a fait un premier traité du rêve qui est très détaillé, c'est Artémidore d'Éphèse, au deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc il vivait en Asie mineure actuelle, en Turquie actuelle. Et puis il écrit à un ami, apparemment philosophe, on ne sait pas très bien qui c'est, la dernière grande lettre. Ça fait un livre, les cinq lettres. Qu'il écrit à ces deux personnages, son fils, dont il veut qu'il continue l'étude des rêves, c'est la dernière lettre. Alors on voit sa tendance, c'est de D'abord, sa démarche. Il a été discuté avec des centaines de d'oniromanciens, des gens qui... qui vous expliquaient ce que voulaient dire vos rêves. Les gens allaient consulter... alors, il est allé, et bien sûr, en Asie mineure, dans, en Grèce et même en Italie. Et il a fait une synthèse de tout ce qu'on lui a dit. Alors, c'est un petit peu schématique parce que ces rapports, c'est rêver de ceci ou de cela égale cela. Rêver de ceci, si vous êtes un personnage important de genre masculin, ça veut dire ceci, alors que si vous êtes une femme de bas niveau social, ça veut dire tout autre chose. Vous voyez, il y a déjà un essai de systématisation. Alors personnellement, j'ai un peu synthétisé tout ça pour dire en fin de compte que les différents auteurs qu'on lit encore actuellement, Freud, Jung en particulier, eh bien, ils ont...
La grille était peut-être un peu restreinte, c'est ça?
Alors, oui, c'est surtout le cas pour Freud, pour Adler, pour Médard Boss, l'existentialiste, etc. Peu importe.
Je devrais.
les gestaltistes aussi. Jung, lui, alors, il est beaucoup plus globalisant. Il a dit une chose qui montre son respect du rêve, puisqu'il dit... le rêve est à lui-même sa meilleure explication. Alors c'est pas, au contraire de Freud, une manipulation des contenus oniriques, mais alors on n'a pas beaucoup de précision à l'intérieur, ça reste un peu vague. Donc moi j'ai essayé de mettre un peu de cerveau gauche dans le cerveau droit de ce que Jung a produit, si on veut résumer tout ça.
Mais on va avoir le temps de développer, hein, Ferdinand.
Bon,
mais effectivement, la grille aussi de la spiritualité pour élargir l'interprétation du rêve. C'est-à-dire quand le petit garçon que vous êtes raconte qu'il vole, on a souvent dit que là aussi c'était une interprétation sexuelle, vous auriez presque envie de dire, je fais du schématisme, hein, que c'est voler vers une aspiration à être autre chose, à être plus ample dans sa conscience.
Ça peut être les deux, parce que ça dépend de vous. Ce que j'ai fait, j'aurais préféré que mon livre s'intitule « Quels rêves font quels rêveurs ?» Ce que j'ai fait, c'est de mettre beaucoup d'importance au niveau de fonctionnement, de développement du rêveur lui-même. Et en fonction de ce niveau de développement, il va rêver pas n'importe quoi. Si vous voulez le résumer... extrême de ce que je dis, ça paraît banal, mais n'importe qui ne rêve pas n'importe quoi. Plus précisément, ça veut dire que comme nous fluctuons nous-mêmes entre trois niveaux de développement et de conscience, on rêve sur trois niveaux. Alors qu'est-ce que c'est ces niveaux? Ça part du corps, vous pouvez faire des rêves somatiques, vous rêvez que vous cherchez désespérément des toilettes, et vous finissez par vous réveiller parce que vous avez trop bu de tisane.
Bon, ça, hein, je comprends,
ou de bière.
Là.
Voilà, c'est très
ça,
facile.
C'est le premier niveau.
Voilà.
Le deuxième.
Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il est d'abord un moi corporel, après il devient un moi pulsionnel et émotionnel. Il s'identifie à ses émotions, et d'ailleurs il ne les maîtrise pas. Puis après il commence à les maîtriser parce que son intellect, il devient raisonnable, si vous voulez. Hein, la phase de latence de Freud, qui a aussi très bien compris un certain nombre de choses, bien entendu. Je ne veux pas me faire le détracteur de Freud.
Il en a assez en ce moment.
Mais je veux dire, et alors vous pouvez aussi rêver à ces niveaux. Vous rêvez au niveau émotionnel, par exemple, vous faites des rêves traumatiques. Si vous avez assisté, comme j'ai vu une fois dans un avion, une personne qui venait d'assister au grand tremblement de terre de la région d'Ahmedabad, de Gujarat, en Inde, cette personne rêvait même en plein jour, les yeux ouverts à moitié fermés, et elle a rêvé pendant des mois du traumatisme. Quand vous voyez les meubles, vous voyez, on est dans un studio, tout giclerait de gauche à droite à toute vitesse.
Donc ça, c'est le deuxième niveau.
Alors ça, on peut dire le deuxième niveau. Maintenant, vous pouvez faire des sous-niveaux. Donc j'ai dit aussi, après, vous vous identifiez à votre intellect, à votre raisonnement. Donc vous pouvez faire aussi des rêves, jusqu'à même faire des découvertes scientifiques ou artistiques. Où vous avez ce que j'appelle des rêves miroirs, des rêves qui vous renseignent sur où vous en êtes, vous, avec vos pensées.
Là, on énumère, puis après, on va creuser un petit peu certains chapitres après la première chanson.
Mais hein,
le rêve miroir et le rêve artistique, où tout à coup, un scientifique trouve la solution en rêvant. C'est Ferdinand Villemier, notre invité, à propos de ce livre dont nous parlons ce matin. Dis-moi comment tu rêves, je te dirai qui tu es. Comment vous dites-vous, aux éditions d'Hervin?
Non, non, Dervy Livre, c'est une succursale d'Albin Michel.
Voilà, fait, hein. Chemin de l'harmonie. Et puis, après la chanson, nous rejoindrons sur un terrain neurophysiologique et aussi rêve, hein, puisqu'on parlera de cauchemars. Nous irons à l'hôpital rencontrer d'ailleurs quelqu'un que vous avez forcément fréquenté au CHUV à Lausanne, Ferdinand Villemier. C'est le temps de la chanson. On va écouter « Au coin de mes rêves ». C'est choisi par Nathalie Schoenberg et c'est signé Brisa Rocher.
Rien n'est joué jusqu'à 11h sur la première.
Au coin de mes rêves, souvent je vous ai cherché. Au coin de mes rêves, parfois je vous ai trouvé. Mais moi, je vous répétais très ému que tout ça serait vrai et que le jour viendrait où l'on ne rêverait plus. Oh, 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 au coin de mes rêves.
Le docteur Ferdinand Villemier. Et puis, puisque nous parlons des rêves, nous avons longtemps tâtonné, Lydia a trouvé une idée de reportage, puis finalement vous avez choisi d'aller dans un laboratoire du sommeil pour voir ce qui se passait sur
le terrain.
Sur le terrain.
Alors effectivement, c'est la clinique du sommeil à Lausanne. C'est amusant quand on arrive parce qu'il y a quelques chambres et il y a des gens qui étudient leur sommeil aussi pendant la journée. Donc il y a des gens au lit qui sont là avec des électrodes, on observe les moments où ils s'endorment.
Alors ça, c'est plus aussi pour les problèmes de sommeil pur, mais comment le rêve existe-t-il dans ce laboratoire du sommeil?
Alors, en compagnie de Raphaël Heinzer, qui est le directeur du centre, on va commencer par visionner des vidéos pendant la nuit, en cœur de la nuit, où les gens sont extrêmement actifs et même voire agressifs. Et par la suite, on va rencontrer Jean, qui lui souffre depuis des années de rêves de combat. Et il a dû à des cauchemars. Ouais. Je ne sais pas si ce sont toujours des cauchemars, ouais, en fait, parce qu'il combat vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'il a peur et qu'il s'enfuit, c'est qu'il y va au combat. Il se lève, ouais, même dans la chambre, ah, il agit, il se retrouve par terre. D'accord. Il va nous raconter tout ça et aussi les solutions qu'on a trouvées pour rendre ces nuits un peu plus tranquilles.
Si on regarde, c'est un homme qui est en train de dormir, qui est en train d'avoir un examen du sommeil. Vous voyez ici les électrodes qu'il a sur la tête qui nous permettent de voir les ondes du cerveau. Et on voit qu'il commence à s'agiter tout à coup pendant son sommeil. Et tout à coup ici, vous voyez qu'il donne des coups de poing violemment sur son matelas. Donc qu'il est probablement dans un rêve violent. Et contrairement aux personnes normales, il n'a pas une paralysie pendant son rêve, mais cette paralysie est levée et ça lui permet d'agir son rêve. Donc on voit que c'est un rêve violent, puisqu'il se bat visiblement contre quelqu'un et il donne des violents coups de poing contre son oreiller et contre son matelas. Et les électrodes nous montrent qu'il est justement dans cette phase de sommeil particulière qu'on appelle le sommeil REM. Et vous voyez qu'on s'y attendait un peu, puisqu'on a mis les barrières pour éviter que cette personne tombe du lit. Et vous entendez même les coups de poing qui sont donnés.
Est-ce qu'elle s'est réveillée à la fin de ce moment de combat ?
Oui, alors habituellement, les gens se réveillent à la fin, quand ils ont vraiment fait des gestes brusques, se réveillent, et habituellement se rappellent la situation dans laquelle ils étaient.
C'est toujours plutôt le côté combat qui ressort ?
Alors c'est souvent des gestes violents et on ne comprend encore pas exactement pourquoi. Apparemment les rêves agréables sont moins vécus, sont moins agis que les rêves qui impliquent une violence ou un risque ou une fuite. Et c'est surtout ceux-ci qu'on observe pendant la nuit.
Alors bonjour Jean.
Bonjour.
Comment ont commencé ces rêves agités dans votre vie ?
Oh, je pense que c'est un stress professionnel qui était à l'origine. On n'en est pas absolument certain, mais très probablement parce qu'effectivement, il y a eu des réorganisations et une mise sous pression professionnelle. Et petit à petit, mes rêves sont devenus agités. Effectivement, j'ai tapé ma table de nuit, je me suis trouvé à côté du lit. Et puis, juste avant de venir passer une nuit ici au centre du sommeil, j'ai eu une grave blessure, c'est-à-dire que je me suis levé de mon lit de nuit et je me suis précipité sur une fenêtre, et ce qui m'a valu des points de suture, donc une blessure assez grave.
Alors ce rêve, si vous vous en souvenez pas, mais il y avait d'autres rêves qui étaient très agités dans la manifestation dont vous vous souvenez ?
Un petit peu, mais c'est surtout mon épouse qui est la première victime et qui se souvient des périodes agitées. Mais quand je me souviens des rêves, c'est souvent des rêves d'agression, par exemple un chien qui me mord, ou bien une noyade, ou parce qu'un bateau coule, ou des choses comme ça, des trucs absolument abracadabrants, mais c'est effectivement des épisodes relativement violents de la vie de tous les jours qui me provoquent ces rêves agités, en somme ces rêves qui sont vécus.
Et comment vous savez si vous avez eu justement une nuit où vous avez beaucoup agi des gestes ou pas ?
C'est mon épouse qui me le dit. Parce que moi, je ne le sais pas. Je ne me réveille pas du tout.
Alors là, qu'est-ce qu'on entend ?
On entend Jean qui respire un peu bruyamment. Donc là, on n'est pas en phase de sommeil. On est en phase de sommeil de stade léger, de stade 1. Donc on n'a pas d'agitation. Ici, on avance un petit peu dans la nuit. Par contre, on voit des activités électriques de ses muscles, ce qui justement...
Ses muscles bougent quand même.
Ses muscles bougent quand même, alors que normalement, ils ne devraient pas bouger. Alors qu'on voit qu'on est vraiment en phase de sommeil de rêve, avec ici des yeux qui bougent rapidement, vous voyez.
Et la petite vidéo, donc c'est lui dans le lit.
C'est lui dans le lit, on peut l'agrandir même si vous voulez. Mm-hmm. Donc là, on voit que c'est une phase de sommeil REM où il est tout à fait paisible. Ce qui arrive quand même la plupart des nuits, heureusement.
Si vous voulez, je vais juste regarder le compte-rendu de la nuit, voir s'il y avait une période où il y avait une petite agitation.
Vous avez passé qu'une nuit ici.
J'ai passé qu'une nuit ici, oui. Effectivement, il faudrait pouvoir passer des nuits dans son lit, dans son propre lit, avec son propre environnement. Ici, il n'y a pas de fenêtre. Moi qui adore dormir la fenêtre ouverte, c'est un peu difficile. Hein.
Dans la vie, vous êtes quelqu'un comme ça, d'un peu avec des gestes violents ou qui s'exprime beaucoup par le corps ?
Non, mais je suis un homme toujours en mouvement. Mes filles me disent aussi que je ne sais pas rester tranquille, donc il faut que je bouge, il faut que j'aie du mouvement. Et là, c'est quelque chose que je pourrais dire aussi au docteur Heinzer, c'est que j'ai fait l'expérience d'aller faire des courses de montagne ou des activités assez fatigantes pendant une durée assez longue, des grandes marches. Et on n'a remarqué aucune diminution de l'activité nocturne après ces longues marches. Donc un épuisement physique, semble-t-il, n'a pas d'effet positif sur la nuit suivante.
C'est très souvent, c'est fréquent, ou c'est de temps en temps, une fois par semaine ou deux fois par mois ?
Maintenant que nous avons trouvé la bonne médication et que je suis aussi à la retraite, donc je n'ai plus de soucis et de stress professionnel, On peut dire que ces phénomènes se produisent une à deux fois par mois. Donc on a une bien meilleure situation, et puis avec une limitation aussi par le fait que je m'attache dans mon lit, pas du tout de manière contraignante, je suis tout à fait libre de me tourner dans mon lit, mais attaché assez lâche, ça me permet de m'endormir, et surtout mon épouse aussi, de s'endormir de manière moins anxieuse que par le passé.
Vous l'avez vécu comment? Vous le vivez comment? Vraiment comme une petite maladie, comme une expérience, comme une spécificité de votre sommeil?
Oui, comme une maladie, presque une maladie honteuse quand même, et très désagréable parce que elle m'empêche de vivre normalement ou d'aller normalement dans un hôtel, dans une cabane de montagne ou comme ça. Je ne peux pas dormir à côté de quelqu'un dans une cabane de montagne sans que la personne qui est à côté de moi ait des risques.
C'est très intéressant de voir le contenu des rêves, c'est-à-dire d'avoir tout à coup une fenêtre sur ce qui se passe dans le cerveau de la personne. Donc c'est extrêmement intéressant pour nous de voir ce qui se passe dans la tête des gens, d'avoir tout à coup une vue directe sur leur activité onirique. Maintenant, l'interprétation des rêves, alors ça, on la laisse peut-être à des spécialistes.
Mais on pourrait se demander si, par exemple, pour Jean, si on comprenait d'où viennent ces rêves de combat ou agressifs, peut-être qu'à ce moment-là, le trouble nocturne disparaîtrait. On pourrait aussi penser comme ça.
Je ne pense pas que le meilleur des thérapeutes arrivera à enlever les rêves. Et je ne sais même pas si c'est souhaitable. Simplement, ce qu'on essaye d'améliorer, c'est l'agissement des rêves, l'activité physique pendant les rêves qui est anormale. Donc le rêve sera toujours là, mais c'est juste la manière dont il est vécu pendant dans la nuit, qui peut être agi ou non agi, et c'est ça qui fait la différence.
Alors c'est un tout petit peu différent cette partie reportage d'Edia Gabor, parce que là on est vraiment clairement dans la pathologie, et Raphaël Heinzer l'a dit clairement, l'interprétation des rêves, bah c'est pas son domaine, c'est le vôtre, hein. Et là on soigne avec des médicaments.
Oui, Jean il prend du Rivotril, mais on a parlé aussi de cas d'une femme par exemple qui pendant son sommeil parlait une langue qu'elle parlait dans son enfance et qu'elle ne reparlait plus sauf en dormant.
Mais elle est venue consulter pourquoi?
Elle est venue consulter
des problèmes de sommeil.
Non, parce que son mari ça le gênait pendant la nuit qu'elle parle fort en dialecte calabraise, alors qu'ils étaient mariés depuis 20 ans et qu'elle parlait toujours en français.
Un commentaire pour clore le reportage de Lydia Gabor.
Ben écoutez, d'abord, je trouve que c'est très utile d'avoir des laboratoires de sommeil, non seulement pour étudier les rêves, et puis surtout, quel est le souci des neurophysiologistes qui s'intéressent aux rêves en général, donc pas les rêves pathologiques, c'est de voir ce que fait le cerveau pendant le rêve. Et il se comporte un peu différemment de son comportement en état de veille. Alors maintenant, quand vous avez des rêves qui posent des problèmes, comme
celui de Jean,
ces deux cas, il y a un cas grave parce qu'il se blesse, il y a encore plus grave que ça, ce qu'on appelle des parasomnies, ben ça vaut la peine d'aller étudier ça. Ça peut même revêtir un aspect médico-légal, parce que là, ça aurait été intéressant de savoir à quelle heure de la nuit ça se passait chez ce monsieur qui se blesse, parce qu'il y a un syndrome, une parasomnie assez particulière, qui est encore plus agité que ce qu'on décrit ici et qui peut se manifester par un lever et un comportement agressif. Il y a eu un cas quand même fameux en France où un jeune homme de, je crois, 16-17 ans ou même 15 ans a tué ses deux parents à coups de couteau. Il était dans un état hallucinatoire, hébété. Quand la police est arrivée, ouais, il était complètement ensanglanté. Il n'a pas du tout cherché
nier.
Il savait pas que c'était lui. Il a décrit une scène hallucinatoire où quelqu'un a tué. C'est comme s'il était en dehors de son corps et qu'il voyait une agression sur ses deux parents. Et c'est grâce à un spécialiste que on a fini par libérer ce garçon de toute responsabilité parce que dans un laboratoire de sommeil, de façon répétitive, on a vu qu'il avait cette parasomnie de 5 heures du matin qui l'a fait même... Là, on ne peut plus dire que c'était un rêve parce qu'il est sorti les yeux ouverts comme un somnambule, même si apparemment ce n'est pas non plus du somnambulisme. C'est une entité qu'on a découvert assez récemment, que je connaissais moi-même pas. Et voilà, jusqu'où ça peut aller.
Alors Ferdinand Huillemier, justement, puisqu'on est dans le domaine des neurophysiologistes, en général aussi, la science dit, ben voilà, enfin, un certain volet de la science dit, les rêves, c'est finalement des bribes de choses qui restent de la journée, qui sont incohérentes, et qu'il ne s'agit absolument pas d'interpréter. Ça ne veut rien dire, c'est incohérent. C'est évidemment pas votre point de vue.
J'ai fait aussi un chapitre sur ce que nous livre la neurophysiologie du cerveau. Pour ce qui est du fonctionnement du cerveau, c'est intéressant. Pour ce qui est de la compréhension du rêve, c'est quasi nul. Il y a une tentative maintenant qui est faite par une lausannoise genevoise, Madame Schwarz, qui dessine ses rêves et qui analyse de façon quantitative par les mots utilisés pour décrire ses rêves, cette analyse qui peut être, vous voyez, quantifiée. Pour la science, il faut du quantitatif. Vous ne pouvez pas vous contenter de qualitatif. Donc, cette quantitativité va permettre de faire des liens. Je ne crois pas que les résultats soient encore publiés, mais voilà, on n'a pas appris grand-chose. Je connais qu'une seule étude, à part ça, celle d'un monsieur Verdon à Chicago, sauf erreur, qui a réveillé des rêveurs à différents moments de la nuit, donc les 4, 5 ou 6 fois qu'on se réveille en période de
sommeil paradoxal.
Et alors, ce qu'il a remarqué, c'était que les gens en début de nuit rêvent de choses qui ont trait à la vie récente ou quasiment actuelle.
Les engueulades au bureau.
Voilà, ce qu'on appelle des traces mnésiques, des traces diurnes. Et au milieu de la nuit, c'est comme si le thème du rêve reste, mais avec des souvenirs plus anciens. On retrouve la calabraise. Et puis, vers la fin de la nuit, quand on est proche du réveil et du lever, à nouveau des choses plus actuelles. C'est intéressant et ça va très très bien avec une explication indienne des rêves ancestrales qui dit que c'est les éléments qu'on rencontre dans une journée se mettent en résonance avec des choses plus anciennes. C'est pour ça que pour eux, il n'y a aucune limitation à faire entre l'actuel, le passé ontologique, donc de ma vie actuelle, et éventuellement des vies antérieures.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une chanson, et après, on va prendre un exemple, puisque, je le rappelle, vous êtes notre invité avec une formation de médecine et de psychiatrie, de psychothérapie, et puis aujourd'hui, une grille de lecture plus spirituelle avec une trajectoire personnelle de votre côté, vous me pardonnerez si je le mentionne, mais je pense que c'est important aussi, de yoga, de méditation. Donc, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous analysez les rêves et quel travail vous faites très précisément et celui que vous nous conseillez de faire plus régulièrement, une sorte de travail de thérapie à procéder à partir du rêve. Donc d'accord. C'est une chanson signée Gotan Project, c'est une nouveauté, pas grand-chose à voir avec le rêve, mais de la beauté quand même.
Réécoutez Rien n'est joué quand vous le souhaitez sur internet, rnj.rsr.ch.
Pero caen en la tentación. Un torbellino de locura, de ardor y deseo. Se aumenta el peligro, aumenta la excitación. La lluvia golpea.
Project sur la première, rien n'est joué avec notre invité. Dis-moi comment tu rêves, je te dirai qui tu es. Alors préciser aussi à nos auditrices, à nos auditeurs, que c'est pas comme ça. Comme on trouve souvent, Ferdinand Williomier, des espèces de modes d'emploi avec si vous rêvez de ci, vous le disiez tout à l'heure, hein, si vous rêvez de ci, ça veut dire ça. Si vous rêvez que vous perdez les dents, ça veut dire ça. Ça veut pas dire grand-chose. C'est une symbolique un peu sommaire et qui veut pas dire la même chose pour tout le monde.
C'est une simplification abusive et c'est une source d'erreur monumentale. Je veux dire, c'est la fameuse clé des songes qui n'est pas totalement fausse, mais quand vous avez juste un petit peu de vrai, vous pouvez pas tenir compte de l'ensemble, vous pouvez pas tenir compte du rêveur. Vous voyez, c'est un service extrêmement mécanique.
Parce que ce qui est intéressant aussi, vous le dites dans le livre, c'est que d'abord, voilà, le rêve est en fonction du rêveur, le rêveur en fonction du rêve, mais il faut aussi regarder sur une série de rêves, avec probablement des choses qui se disent à plusieurs reprises et qu'on interprète enfin au bout de la série.
Exactement, exactement. Ça, c'est très important. Parce que vous pouvez, même un grand sage peut faire un rêve pipi, n'est-ce pas? Il peut être dérangé par des ennuis physiques, les saints finissent par mourir aussi, je veux dire. Donc il peut faire des rêves somatiques, mais en général, il va faire des rêves qui sont à son niveau, des rêves plutôt spirituels, psychospirituels, des rêves prémonitoires, des choses. Parce que c'est les niveaux dans lesquels il baigne à longueur de journée, 24 heures sur 24.
Quand vous dites des rêves somatiques, vous dites aussi qu'il est arrivé à travers certains décryptages de rêves d'identifier des maladies.
Il y a un Russe qui s'est beaucoup occupé de ça, qui s'appelait Kazatkin, je ne sais pas s'il vit toujours, et il a été intrigué par les rêves à contenu physique, montrant des préoccupations physiques, et il s'aperçut que pour certaines maladies, on peut rêver, comme le cancer, une année avant la détection de tout signe clinique. Donc je ne veux pas faire peur
aux auditeurs. Oui, c'est ça, on risque de faire peur aux auditeurs.
Mais
là,
des rêves répétitifs, longs, pénibles, qui montrent des scènes d'hôpital, des
syndromes d'étouffement.
Oui, j'entends parler, j'ai donné l'exemple d'une personne qui rêvait de chien qui dévorait un estomac. La personne, une année après, a été découverte avec un cancer de l'estomac.
Il faut faire attention aussi dans ce qu'on dit à nos auditeurs.
Bien
là,
sûr, il faut toujours faire attention. Si on dit rien et puis que on est lénifiant, on ennuie tout le monde. Mais par exemple, vous rêvez d'incendie deux jours avant une cystite, vous n'avez pas encore les signaux. Donc ça peut valoir la peine de se préoccuper, puis peut-être de prendre des mesures préventives et d'aller voir son médecin. Ne serait-ce que pour ça, mais il n'y a pas que les rêves somatiques qui sont intéressants.
Et puis on peut rêver d'incendie puis pas avoir de cystite.
Mais bien entendu, surtout avec ces catégories et en tenant compte des personnes, vous pouvez rêver d'incendie pour 30 000 raisons. C'est pour ça que la clé des songes est à déconseiller. un incendie veut dire telle chose. Elle peut vouloir dire ceci, ceci, ceci ou cela, en fonction du rêveur, de son contexte de vie, etc. Donc les séries, en effet, comme vous l'avez suggéré, permettent de beaucoup mieux situer l'évolution aussi, et même le pronostic d'évolution d'une personne.
Alain rêve qu'il se... Ça, c'est dans votre livre, hein. C'est sous le chapitre classification des rêves, mais pour qu'on comprenne aussi ce dont on parle depuis le début, sans l'aborder vraiment, la lecture spirituelle. Alain rêve qu'il se trouve dans une boutique de vêtements où tout est soldé à 50%. Il y achète un manteau avec des motifs très colorés. La scène suivante se passe dans une ferme, à la campagne, où il ne trouve pas de miroir pour se regarder, vêtu de son nouveau manteau, qui devient de plus en plus lourd à porter et ne lui plaît plus. Puis, il entre dans une cathédrale avec deux autres personnes et cherche des places pour s'asseoir et écouter un concert de Noël. Un placeur y circule avec des patins à roulettes. Sorti de la cathédrale, il glisse sur de la neige, mais étonnamment sur une pente ascendante qui le conduit jusqu'à une plateforme sur laquelle un homme l'aide à se hisser en tirant sur ses habits. Plusieurs personnes sont réunies en silence sur cette plateforme dans une atmosphère paisible qui l'envahit et qui persiste pendant plusieurs minutes chez le rêveur après son réveil. Alors ça, c'est un de vos patients, j'imagine, sous un autre nom. Alors vous en faites quoi de ce rêve en tant que thérapeute ?
Bon, alors c'était quelqu'un que je connaissais, je savais dans quelles eaux il baignait, si vous voulez, à quel niveau de conscience et de développement il se situait.
Alors ça veut dire quoi, niveau de conscience et de développement ?
Je vous ai dit tout à l'heure que les gens sont d'abord, si on prend le bébé jusqu'au vieillard, il est d'abord un moi corporel, après il est un moi énergétique, il est un moi pulsionnel,
c'est un adulte.
Et puis, il raisonne, et puis il a, visiblement pour moi, quand j'entends ce rêve, une aspiration spirituelle. Mais il est encore entre deux, regardez.
Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il y a une aspiration spirituelle dans ce rêve ?
Attendez, d'abord on va voir où il est. Oui. C'est un rêve mixte, c'est un rêve qui a plusieurs contenus oniriques. D'abord, il est assez long. Et on voit que début, il est parlé de vêtements... à 50%, qui sont soldés à 50% avec des motifs floraux. Vous avez oublié de dire floraux, c'est très important dans le rêve, très coloré, parce que c'est un ancien hippie.
Voilà, d'accord.
Alors, vous voyez, les hippies, on s'achète bon marché, etc. Donc, c'est où il a été, c'est plutôt son passé, là.
Après, il va dans la cathédrale.
D'abord, il est dans une ferme à la campagne. Hein, il va se désintoxiquer peut-être un petit peu de hache et d'alcool et de je sais pas quoi.
Vous supposez qu'il a été hippie.
J'en sais rien, mais j'ai pas parlé de ce client. Et puis, mais voyez, son manteau ne lui plaît plus. Ça veut dire hippie, ça a eu payé, ça paye plus. Enfin, ça ne m'intéresse plus. Stade suivant, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans une cathédrale. Donc déjà, les gens qui vont dans une cathédrale, ils vont pas chercher la même chose que dans une discothèque. D'accord ? Et puis, il en ressort, n'est-ce pas ? Il voit quelqu'un d'abord qui circule à patins roulettes, c'est-à-dire sur le même niveau. Et qui va vite, mais qui tourne un petit peu en rond dans cette cathédrale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être je tourne en rond à me préoccuper, à essayer de voir ce que la religion peut m'apporter. Stade suivant, il sort de la cathédrale et puis il fait une ascension. Quand vous faites une ascension, ça veut dire que vous passez une étape hiérarchique et voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de chant de Noël, on n'est plus dans la cathédrale, on n'est plus dans la religion, on est au niveau spirituel. Vous voyez, un maître indien a dit... la religion, c'est le kindergarten de la spiritualité. Au-delà de la religion, il y a la spiritualité. Au-delà de la spiritualité, il y a la réalité, avec un grand R.
Mais ça veut dire, Ferdinand Huillemier, que si on n'est pas intéressé du tout par la spiritualité, ce qui est quand même le cas d'une grande partie de la population, même si d'autres cherchent, on ne vous intéresse pas.
Ah, pas du tout. Moi, je m'adapte à chacun. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai... fait cet effort d'un livre synthétique pour tout niveau. Et je vois pas pourquoi on serait arrogant.
Donc il n'y a pas de hiérarchie, on n'est pas sur le chemin d'une
hiérarchie, parce que la nature est construite comme ça, mais ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un accède à un niveau spirituel, il est quelqu'un de plus important ou qu'il doit se croire supérieur. Il ne faut pas confondre la hiérarchisation de la réalité avec le sentiment narcissique de se croire supérieur. C'est deux choses assez différentes. Mais il faut aussi pouvoir répondre à ces niveaux.
À ces aspirations qui apparaissent dans le rêve.
Pourquoi il y a des gens qui sont venus me trouver dans les dernières années de ma... les 15 dernières années de ma pratique psychothérapique? Eh bien, c'est parce que j'avais cette... cette possibilité de dialoguer à ces niveaux-là. Or, si vous n'avez qu'une formation freudienne, justement, vous allez négliger ces aspects spirituels. Mmh. Alors, j'en parle dans mon livre parce que ces aspects ne sont souvent pas reconnus, en effet, ni par les personnes qui n'osent pas peut-être même se dire à eux-mêmes qu'ils ont des préoccupations spirituelles, et encore moins par les analystes de rêve ou par la grande majorité de mes confrères. La mode est en train un petit peu de changer, puisque la méditation maintenant
acquiert
des
maîtres
de mode, noblesse, etc. Donc ça, j'ai cru nécessaire de dire, mais écoutez, ça existe pas seulement à mes patients, mais de façon plus générale, et apprenons à repérer ces choses-là. Il y a des gens qui sont très soulagés de savoir qu'ils ont des préoccupations spirituelles qu'ils n'osent pas s'avouer à eux-mêmes.
Alors, juste, il y a le dernier chapitre du livre, je vois que le temps court, et ce serait bien de le partager avec les auditrices et les auditeurs aussi. Le dernier chapitre, c'est au fond des conseils très précis, hein, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, éviter les réveils brutaux, mais ma foi, quand on va au boulot avec le réveil, bon, on est un peu obligé, mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces rêves? Faut les noter, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ben, j'ai écrit ce livre pour permettre à des gens de s'y intéresser, de trouver que c'est peut-être moins stupide que ça en a l'air de rêver. Et donc, si vous trouvez qu'une chose est intéressante, vous allez vous débrouiller pour y consacrer un tout petit peu plus de temps. Vous dites qu'on est obligé de se réveiller avec un réveil matin, je suis pas d'accord du tout. D'abord, si vous vous entraînez et que vous décidez que vous vous réveillez à 6h moins quart, vous allez vous réveiller à 6h moins 20.
J'en connais beaucoup qui ont
se mettre
ça
le
dans la
pas.
Tête. Oui.
Mais si vous êtes pas du tout ambivalent, vous allez vous entraîner, vous allez y réussir. Si j'y réussis, je vois pas pourquoi d'autres n'y réussiraient pas. D'autre part, on peut aussi se réveiller avec une lampe qui devient de plus en plus claire. Et ça, c'est un réveil physiologique qui permet d'éviter ce que le réveil matin entraîne. Réveil avec la radio suisse romande ou réveil avec une sonnerie, c'est malheureusement la même chose. Eh bien, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un... Pour les rêves,
c'est la même chose.
On ne va pas faire ce brusque changement d'état qui fait que,
ayant
passé d'un état de conscience à un autre brusquement, vous perdez votre mémoire. Et puis, ben, il y a plusieurs conseils, on ne va pas tous les redire ici.
Une question.
Il faut acheter mon livre.
Il faut acheter votre livre. Juste une question importante. Est-ce qu'on peut agir sur son rêve? Moi, par exemple, je ne vais pas parler de moi, mais on a quelquefois l'impression qu'on rêve des trucs sans intérêt. Est-ce qu'on peut, vous disiez, on peut choisir de se réveiller, mais est-ce qu'on peut agir sur son rêve?
C'est un grand intérêt, justement, pour les cauchemars. On a entendu des cauchemars très particuliers avec, disons, gestes, ce qui en fait des catégories spéciales pour lesquels, encore une fois, les laboratoires de sommeil sont très utiles. Mais Hervé de Saint-Denis, par exemple, est un pionnier des rêves lucides, c'est-à-dire rendre son rêve lucide pendant le rêve. Et c'est comme ça qu'il s'est traité lui-même des cauchemars terribles qu'il faisait.
Mais comment est-ce qu'on fait ça?
Ah ben alors, il y a différentes,
c'est compliqué à expliquer,
il y a différentes techniques. Vous pouvez vous conditionner, vous préparer, vous faites de l'autosuggestion. Il y a même des appareils qu'on peut utiliser. Je ne l'ai pas pratiqué, donc je ne vais pas décrire des choses que je n'ai pas faites. Mais c'est possible, mais ça demande aussi des efforts. C'est comme apprendre à consigner ses rêves, à apprendre à les interpréter. C'est un effort, c'est toute une du temps qu'il faut et de l'énergie qu'il faut y consacrer. Mais là, vous pouvez aussi le faire. Et il y a des gens qui souffrent tellement de l'accouchement qu'ils sont motivés de travailler comme ça. Alors c'est peut-être plus simple de prendre un médicament. C'est très indiqué de prendre une benzodiazépine qui vous
calme,
disons, qui rend le tonus musculaire beaucoup plus faible et qui donc qui évite ces mouvements brusques qui peuvent être dangereux. Mais ça va pas vous apprendre à trouver une issue favorable à vos rêves, et c'est très important pour des gens qui se sentent victimes, qui sont très sensibles, comme les gens qui font des cauchemars en général, d'apprendre à se défendre, donc à faire face plutôt que de continuer d'être poursuivi et de risquer sa peau, comme toujours dans les cauchemars.
En deux mots, vous organisez aussi, et ça aura lieu en octobre, on aura les informations sur notre site, des analyses de rêves en groupe.
Hein ? Oui. Oui, je trouve que c'est un moyen très favorable. Il se passe beaucoup de choses. C'est une des occasions de se montrer très solidaire. Vous voyez, raconter. Parce que les gens racontent pas n'importe quel rêve banal. Ils racontent le rêve qui les a vraiment
impressionnés,
même quelquefois tourmentés. Où ils ont senti qu'il y avait quelque chose de spécial, donc des rêves significatifs. Et puis on utilise un peu toutes les bonnes volontés et les idées des autres participants
qui reçoivent ce rêve et disent.
Mais oui, qui se l'approprient. Alors il y a toute une technique que j'anime là comme ça. Il y a quelqu'un qui met les mots clés sur un paperboard, la personne qui présente le rêve.
Un tableau.
Sur un tableau. La personne qui présente le rêve souvent lui demande de le redire une deuxième fois les yeux fermés, d'autres détails apparaissent, on fait des exercices pour se rapprocher de l'état de conscience du rêve avant de faire ça, et puis on met un certain temps, j'entends une bonne analyse de rêve en général, avec un rêve qui n'est pas ultra simple, ça dure une heure et demie en tout. Donc voilà, ça permet à des gens, je trouvais, de trouver un sens à un rêve qui est resté comme ça énigmatique
et qui les a débloqué quelque chose.
Ah oui, oui, oui. Émotionnellement, souvent il y a une sorte de soulagement. Et puis encore une fois, une grande solidarité entre les gens. Je fais des séminaires comme ça qui durent deux jours.
Alors, pour trouver le livre, dis-moi comment tu rêves, je te dirai qui tu es. Ça, c'est aux éditions d'Hervy Ferdinand Huillemier. Les prochaines conférences, le 7 mai à 20h à Genève, au centre.
Ça, c'est déjà passé.
Le 7 mai, c'est passé. Le 4 juin, le 4 juin, à 20h à Neuchâtel, à l'Hôtel des Arts. Et puis, le séminaire en octobre.
Alors on peut avoir tous les renseignements qu'on veut en consultant mon site web. Alors mon site web.
Alors il sera sur le nôtre, rnj@rsr.ch. On va mettre votre site sur le nôtre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé à cette émission. Il est 11h sur la première.
RSR, Georges Pop.
L'armée thaïlandaise annonce l'instauration d'un couvre-feu à Bangkok.